Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural. Des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée. Reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Le maïs, céréales, agro et épis figurent parmi les aliments de base de la population congolaise. Et le maïs est cultivé dans plusieurs parties du pays. Voilà. Et cependant, maîtriser les techniques culturales du maïs est essentiel pour s'attendre à un bon rendement. À la fin, du semis jusqu'à la récolte, il y a des choses à faire. Il faut bien entretenir son champ pour espérer un bon rendement. Alors, nous aurons des réponses à cette question, celle de savoir comment, évidemment, cultiver les maïs et entretenir son champ. Avec Jean-Pierre Kabongo, ingénieur agronome et expert en culture du maïs. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, pouvez-vous nous présenter cette céréale qu'on appelle le maïs?
Oui, c'est très intéressant de vous avoir invité aujourd'hui pour nous présenter la céréale dite maïs. Le maïs, à l'origine, dans l'Amérique latine, c'était une céréale bien appréciée par les Amérindiens. Et pour eux, ils pensaient que c'était une céréale que leur dieu soleil avait donnée. Et
ah bon?
Tout est parti de là, après plusieurs sélections, améliorations. Mmh. Et nous aboutissons aujourd'hui à la céréale maïs que nous avons, que nous appelons le maïs normal, le maïs commun. Mmh. Et c'est ce que nous voyons, mais ça date de très longtemps.
De très longtemps.
Oui.
Bien, et dites-nous maintenant pour celui qui est intéressé, bien sûr qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que le maïs est beaucoup consommé dans notre pays.
Effectivement.
Et dans quelle partie du pays on le cultive généralement?
Le maïs est cultivé dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en commençant par la forêt. Dans toute la forêt équatoriale, nous avons les maïs, nous avons les maïs dans la cuvette, nous avons les maïs dans les montagnes, nous avons des maïs au sud, au milieu, dans la savane. Partout en RDC, les maïs est cultivable.
Il semble que c'est au centre où les maïs est beaucoup cultivé et consommé.
Oh oui, le maïs est plus cultivé et consommé vers le centre et le sud. Quand vous commencez par le Katanga et vous remontez, le Katanga qui est une grande province, la production de maïs, et vous remontez vers le Kasai, le Bandundu, et vous remontez jusqu'ici, même dans le Bas-Congo, le maïs est en train d'émerger.
Alors que parlons maintenant des techniques culturales, d'abord par rapport au sol. Quel est le maïs est cultivé dans quel type de sol et comment doit-on le préparer?
Ok, partant d'abord du début, le maïs d'abord c'est une plante, qui dit plante c'est un être vivant, il doit être bien nourri. Alors il faut d'abord choisir un bon sol. Cela veut dire sol arable, sol qui a beaucoup de matières organiques, beaucoup de minéraux. En ce moment-là, vous pouvez choisir de bonnes variétés de maïs appropriées au type de sol que vous avez.
Alors, est-ce que le cultivateur seul peut distinguer, peut arriver à connaître la qualité du sol?
Bon, nous sommes en train d'organiser des ateliers de formation avec les cultivateurs qui sont organisés soit en association ou en plateforme, et nous leur apportons des informations. Actuellement, nous tenons des réunions dans le plateau du Bateke au niveau des Kadim avec tout ce qu'il y a comme agriculteurs là-bas des maïs. Au niveau du Bas-Congo, tous les Bas-Congo entiers, au niveau du Kasai. Là, c'est là que nous apportons les informations techniques aux agriculteurs. Bon, qu'est-ce que nous constatons? Les agriculteurs sont seuls qui se lancent souvent dans la culture de ces maïs. Alors, souvent, ils arrivent aux échecs parce qu'ils n'ont pas des informations techniques mais des itinéraires appropriés pour obtenir le rendement attendu.
D'accord. Et quels sont les éléments, les minéraux dont le maïs a souvent besoin par rapport au sol? Il y a parfois des sols appauvris, des sols qui sont pauvres et on peut aller là-bas et puis on n'a pas un bon rendement.
Bon, le maïs d'abord c'est une plante gourmande en eau d'abord. Il faut que les sols soient un sol vraiment riche en eau. Et l'azote, c'est le minéral principal. Il y a l'azote, il y a le phosphore et le potassium. Ces trois minéraux-là sont très, 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 très capitaux pour la croissance et un bon rendement du maïs.
Et alors maintenant, comment préparer le sol pour avant de passer au semis?
D'abord, il faut se renseigner pour savoir que le sol requiert toutes les propriétés pour pouvoir fournir ces éléments dont je viens ces éléments dont je viens de parler ici. Parce que tout commence par les analyses des sols. Si on connaît ce que le sol est capable de nous donner, en ce moment-là, nous pouvons dire que ce sol est propice pour la culture des maïs.
Et qui fait cette analyse du sol?
L'analyse du sol, moi, c'est fait par les techniciens des labos. On prélève les échantillons, on les amène, et après, on pourra dire, voilà, ces échantillons nous renseignent sur le type de sol. Puisque tous les sols ne sont pas adaptés à la culture des maïs.
Est-ce que généralement les cultivateurs le font?
Oui, les cultivateurs qui le font règlement comme ça, ils sont naïfs. Ils arrivent souvent à ne pas obtenir de bons rendements. Et pour eux, ce sont des variétés de maïs qui ne sont pas bons. Et pourtant,
Le problème est ailleurs.
Le problème est ailleurs, oui.
Oui. Alors, ce sol-là, comment on doit le préparer après avoir identifié la qualité du sol?
Oui.
Comment on le préparer avant de le passer au semis?
Avant de passer au semis, plutôt, pour ceux qui ont des techniques mécanisées, ils le font avec des tracteurs. Ils labourent, ils pulvérisent et ils pourront procéder maintenant au semis. Mais pour les petits cultivateurs qui ont moins d'un hectare, par exemple, eux, ils le font à la main. Ils commencent par les défrichages, ils font des billons pour ceux qui les font. Et ceux qui n'ont pas de moyens de faire les billons, ils font les cultures à plat, mais tout après avoir...
Des billons à l'aide de...
Avec des houes, bien sûr. Oui. Ils font les billons, ils préparent leur terrain, ils enlèvent tout ce qu'il y a comme mauvaises herbes et ils enfouissent s'il le faut. Et en ce moment-là, quand il y a des premières pluies, s'ils ont des moyens de fertiliser, ils les font, mais pour la plupart des petits agriculteurs, ils ne les font pas. Et ils peuvent planter directement leur maïs. Et souvent, ils les font en culture associée. C'est toujours avec des légumineuses comme les niébés, l'arachide, les haricots. Il y en a qui mettent aussi entre les plants de manioc. C'est pour tout simplement ne pas gaspiller l'espace qui reste. Oui. C'est comme ça que dans le maïs, nous sommes en train de développer actuellement des systèmes de culture pour montrer aux paysans qu'ils peuvent aller au-delà des rendements habituels tout en utilisant de nouvelles techniques. Par exemple, ne pas labourer, enfouir et faire des semis directs. Sur le paillis, par exemple, le paillis, je parle de, après avoir défriché, l'herbe qui reste, on ne brûle pas, on couvre le sol, et c'est par là que il y a décomposition de la matière, et le sol est chaque fois renouvelé et restauré.
Alors, pouvez-vous expliquer davantage comment ça se fait? Vous venez là de parler d'une nouvelle technique. Comment ça se fait exactement?
Oui, ça s'est fait exactement.
Après les défrichages, on n'enlève pas
l'herbe. L'herbe reste et sèche. Le fait que l'herbe est restée séchée, il y a ce que nous appelons les macrophones et les microphones qui sont dans le sol, qui vont se charger de la décomposition de cette herbe-là. Et quand l'herbe est décomposée, se mélange au sol, au sable, au gravillon, tout ça, c'est ce qui forme la matière organique qu'on appelle souvent la terre noire.
Et c'est cette terre noire. Là, il revient au cultivateur de venir, de retourner, de mélanger cette herbe à la terre.
Oui. Nous leur conseillons de faire le paillis à la première saison.
C'est quoi le paillis?
Le paillis, c'est tout ce qui est resté des pailles coupées là, qui recouvre le sol. Ils les laissent intacts à la première saison et à la deuxième saison, ils incorporent ça au sol.
C'est ça le paillis?
C'est ça le paillis.
Voilà. Et après avoir fait le paillis, maintenant, ils peuvent passer au semis?
Ils peuvent passer au semis.
Et comment s'est fait le semis?
Le semis s'est fait en ouvrant le paillis. Vous voyez, le sol est complètement couvert de l'herbe morte. Alors, ils vont faire des poquets à travers cette herbe morte-là. Et ils plantent leur maïs. Alors, cette herbe morte est
entre... Et on va à combien de centimètres? On ne creuse pas?
On creuse, bien sûr.
Jusqu'à combien de centimètres?
Maximum 5 centimètres.
5 centimètres.
Ok. Alors, la technique poursuivie, c'est que l'herbe morte là étouffe pratiquement la mauvaise herbe qui devait sortir aux endroits qui n'ont pas été semés et ne laisse que les ouvertures là où les plants de maïs vont sortir.
Ok, donc on fait les semis. Il faut combien de graines par trou?
Ça dépendra des espacements que vous allez faire. Aux écartements de 1 mètre x 50, on conseille de mettre un grain. Mais quand on commence à réduire, par exemple, à 0,75 cm x 25 ou bien x 50, on conseille de mettre 2 grains par poquet.
Constant nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Bonjour. Okay. Jody, moi, j'ai 3 questions à demander à l'invité ce matin.
Oui.
Par rapport au sujet qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Alors, la première question est de savoir, d'abord, le maïs, quel est le premier pays producteur de ces maïs? Donc, ces grains ici de maïs est produit dans quel pays du monde? Alors, la deuxième chose, je voulais demander encore, donc, le maïs apporte quoi à la santé d'une personne? Parce qu'il y a certains ici qui disent ça, ils ne préparent comme ça, ils ne mettent pas de farine de maïs, ils cherchent seulement à avoir seulement du manioc là, mais ils ne mettent pas de maïs. C'est pourquoi je voulais savoir que le maïs apporte quoi dans la santé d'une personne. Et la dernière question est celle de savoir, nous voyons aussi la farine de semoule et la farine de maïs. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre la farine de maïs et la farine de semoule? Et s'il y a une différence, la farine de semoule provient de quelle graine? Sur moi, c'est trois questions ici que je voulais demander à l'invité.
Merci.
Merci et bonne journée.
Serge Kingi, vous êtes à Kindu. Bonjour et quelle est votre question?
Merci aussi à l'invité du jour.
Bonjour.
Je voudrais que l'invité puisse vous donner d'abord le maïs lors de la semis. On peut mélanger le maïs avec l'autre sorte de cultif. Ma deuxième question est, lors de la semis, l'écartement peut être de combien de centimètres au moment de la semis? La troisième préoccupation, c'est par rapport aux variétés. Les meilleures variétés que nous pouvons considérer, c'est lesquelles et ils sont au nombre de combien? Et la dernière question, c'est nous donner juste les noms scientifiques. C'est vraiment Serge Kingi.
Bien, revenons à la question constante de Kinshasa qui dit quel est le premier pays producteur de maïs. Monsieur Jean-Pierre.
Bon, actuellement, il y a les États-Unis et la Chine.
Et la Chine.
Oui.
Ce sont les deux grands producteurs de maïs. Et quel est l'apport du maïs dans la santé humaine? Il dit, il voit souvent certaines personnes préparer le foufou. Il y a manioc, comment le dire? Ça va mélanger avec le maïs.
Mais c'est une très grande erreur. C'est une très grande erreur d'exclure le maïs dans l'alimentation humaine. Le maïs nous apporte d'abord beaucoup de protéines, en plus des calories, et nous apporte aussi des fibres alimentaires dont nous avons besoin pour notre digestion. Le maïs est très important dans notre alimentation. Mmh. Pour ne pas citer plusieurs éléments, mais il nous apporte plus de calories, c'est de l'énergie et des protéines.
Et certains disent foufou Masangu, ça c'est pour les Kassaïens.
Oui,
Kassaïens sont les grands foufou Masangu. Ça les fait grossir.
Je peux parler d'une manière un peu plus bref là et vague. Regardez quelqu'un qui mange le foufou de maïs et quelqu'un qui mange le foufou de manioc qui transpire. C'est vous dire que le foufou de maïs, il regorge de beaucoup d'énergie.
Plus que le manioc.
Bien sûr.
D'accord. Et il dit, il constate sur le marché, il y a la farine de maïs et la farine des semoules. Ouais. Il veut savoir quelle est la différence entre ces deux types de farine.
Bon, la semoule, c'est une technique seulement de production de farine. Oui, tout provient du maïs. À part qu'il y a la semoule, par exemple, qui provient du blé. Ça, c'est autre semoule. Mais la semoule de maïs, c'est tout simplement le maïs, mais dégermé. Le maïs dont on a enlevé les germes, et puis on a enlevé le péricarpe, la peau, là. Mmh. Nous gardons seulement l'albumène. Et c'est cet albumène-là qui passe à travers plusieurs techniques pour nous fournir cette farine-là, que nous appelons des semoules. Mais la différence entre le maïs directement moulu et le maïs qui est passé par...
Le processus de transformation.
À la différence, tout simplement, il conserve le même goût, mais le maïs qui n'a pas subi tous ces processus de transformation, il reste encore plus riche puisqu'il a encore la fibre alimentaire là-dedans et conserve encore ses calories qui proviennent des germes qui n'a pas été enlevés de grains.
Alors Serge, je reviens sur l'association des cultures, car on peut associer le maïs à quelle culture. Il parle aussi des écartements. Quels sont les écartements à respecter, les variétés, le nom scientifique du maïs. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, le nom scientifique du maïs, pour commencer par là, le maïs s'appelle Zea maïs.
Zea maïs.
Zea maïs, c'est son nom scientifique.
Okay.
Par rapport aux écartements, tout dépendra de ce que vous voulez faire, en culture pure ou bien en culture associée. Quand vous êtes en culture pure, vous êtes seulement producteur du maïs. Vous allez opter pour la densité qui va vous permettre d'optimiser votre rendement. Alors, plus la culture est dense, plus vous y mettez beaucoup de moyens, plus vous gagnez. Et vous avez un bon rendement. Alors, les écartements de 50 x 50, vous mettez un plant par poké. les écartements de 0,50, de 0,75 fois 50, vous mettez 2 grains par poquet. Les écartements de 0,75 fois 25, vous mettez 1 grain par poquet. Quand vous allez au-delà de 1 mètre, cela veut dire que vous commencez à envisager mettre quelque chose entre les lignes de maïs. En association, on met, par exemple, le niébé, qu'on les appelle les mwengi, on met les soja, on peut mettre les haricots, on peut mettre aussi l'arachide.
Voilà. Et il revient sur, il parle des variétés. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quelles sont les variétés les plus résistantes aux maladies et qui donnent un bon rendement?
Bon, par rapport aux variétés, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Une multitude. À l'INERA, nous produisons beaucoup de variétés. Nous en avons plus de 100.
Mais actuellement, dernièrement, je me rappelle, on faisait la promotion d'une variété beaucoup plus riche qui donnait des très bons résultats.
Je vais en venir. Nous parlons des maïs. Actuellement, l'INERA est en train de prôner sur le maïs riche en acides aminés essentiels. Pratiquement les tryptophanes et la lysine. C'est ce qui fait que ce maïs-là ait une qualité biologique assez élevée.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure pour cette question-là. Vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien. Nous parlons des techniques culturelles de maïs avec Jean-Pierre Kabongo, ingénieur agronome et expert en culture de maïs. Appelez au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment cultiver et entretenir un champ de maïs? Grâce Mimpou, vous êtes à Kikuit. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour à l'invité.
Bonjour. Oui, veuillez éteindre votre radio grâce pour éviter ce feedback à l'antenne. Hein.
Ok, merci, là c'est mieux.
Oui, veuillez réduire le volume ou l'éteindre, vous allez sur la partie de votre téléphone pour éviter ce retour qu'on entend à l'antenne. Allez-y, grâce.
Ce que je voulais un peu demander à l'invité, j'ai une seule préoccupation à demander. Je voulais demander quels sont les avantages et les désavantages, parce qu'il y a les gens ici à Kikuit, je peux dire, qui mange le farine sans avoir les foufous comme on appelle ici les manioc, mais ils mangent les manioc seuls comme ça sans avoir les farines à l'intérieur. Mais là, je voulais un peu demander à l'invité quels sont les avantages et les inconvénients pour ces gens-là.
D'accord, merci. Ingénieur Philippe nous appelle depuis Siro. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. Bonjour l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ok, je suis très content. Je félicite Radio Capi pour avoir organisé cette émission. C'est très intéressant pour nous. Ma première préoccupation, c'est de dire que l'ingénieur venait de nous dire que en République démocratique du Congo, on peut cultiver les maïs partout. Partout, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Mais je suis étonné que nous, en République démocratique du Congo, nous importons les maïs. Comment peut-il expliquer ça?
Voilà. Monsieur Jean-Pierre Kabongo, comment expliquez-vous le fait qu'on peut... Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut cultiver le maïs partout, mais on recourt à l'importation.
Ok. Si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, je disais que le maïs, c'est une culture très exigeante. C'est parmi les grandes cultures au monde. Et ça demande beaucoup de moyens. Alors, je ne connais pas suffisamment des firmes ici en RDC qui font la production de maïs pour assurer le besoin de la population. Et ce qui fait que si le gouvernement mettait les moyens avec tout ce que nous avons comme variété et technique, je pense qu'on n'importera pas les maïs. Parce que déjà notre sol, il suffit de jeter un grain de maïs n'importe où, même sur le boulevard là-bas, vous venez, vous trouverez qu'il a poussé.
Même sur le boulevard.
C'est pour vous dire que nous avons un bon climat, nous avons une bonne humidité, et que si on arrive à importer aujourd'hui, c'est parce que on n'arrive pas encore à produire suffisamment. Et ceux qui produisent plus de maïs ici, ce sont des petits agriculteurs dont je parle.
On n'a pas encore une production industrielle.
Ils ont moins d'un hectare. Ils ont moins d'un hectare pour la plupart et ils font souvent des cultures en association. Ils mélangent avec les légumineuses, les maniocs, tout ça.
Ce n'est pas une agriculture mécanisée.
Non, il n'est pas mécanisé. C'est une juste agriculture de base familiale, juste pour
les besoins de consommation.
Oui. C'est comme ça que nous continuons à importer.
Mmh. Et grâce à Kikwit, dit beaucoup là-bas, Kikwit, beaucoup de gens mangent le foufou, ce qu'on appelle le foufou, sans mélanger avec le maïs. Il veut savoir quels sont les avantages et les désavantages.
Les habitudes alimentaires sont un peu difficiles à être modifiées.
Oui.
Mais il faut qu'on procède par des tests. C'est pour cela que nous avons une autre technique de passer par des tests organoleptiques. On invite les gens qui consomment le foufou de manioc seul et les foufou de maïs seul et les mélangent. Et même ils vont apprécier. C'est une grave erreur de ne pas mettre le maïs, surtout le maïs actuel que nous sommes en train de diffuser, les maïs riches ou bien les maïs biofortifiés. Je les recommande, s'ils ne les font pas, qu'ils commencent à le faire actuellement.
D'accord. Revenons à la question des variétés.
Oui.
Quelle est la variété actuellement qui donne des très bons résultats, très bons rendements?
Actuellement, nous avons des variétés qui n'ira à mise au point, qui sont des variétés riches en acides aminés dont je vous parlais. Si les conditions sont réunies, on peut aller jusqu'à 6 tonnes à l'hectare.
Oui. 6 tonnes à l'hectare.
6 tonnes à l'hectare.
Quelles sont ces variétés?
Il s'agit des Moudichi. Il y a des Moudichi 1 et les Moudichi 3.
Moudichi 1 et Moudichi 3.
Moudichi 3.
Oui.
À côté, nous avons les Kasai. Nous avons les Kasai. Nous avons la Samaru. La Samaru qui est une variété jaune qui est aussi très productive.
La Samaru.
Ah ouais.
C'est celle qui donne la farine jaune.
La Samaru donne le jaune. Il y a le mousse. Mousse qui donne aussi la farine jaune. Et les deux Moudichi nous donnent la farine blanche.
D'accord. On va accueillir Odiane Dipuy-Siro et Axa de Kikwit. Odiane, bonjour.
Bonjour mon frère, bonne année à tout le monde.
Merci, on vous écoute.
Oui, j'ai trois petites questions. Je voudrais savoir un peu si ça sera possible que l'invité mette en ligne, c'est-à-dire sur Internet, le mécanisme de préparation du sol. Donc mettre ce mécanisme sur le site pour permettre à ceux qui ne maîtrisent pas cette façon de préparer le sol, pour que ces gens soient quand même à mesure de lire ça et comprendre pour mieux préparer le sol afin de planter et produire des quantités suffisantes. Parce que nous avons des difficultés, on n'a pas de spécialistes pour faire l'étude du sol. Deuxièmement, que faire pour trouver une semence améliorée de maïs? Que devons-nous faire? Dans des milieux où il n'y a pas d'organismes comme chez nous à Issiro. Et troisièmement, la troisième question est liée à la première question.
Oui.
Au niveau local, comment la population peut vraiment se rassurer pour dire que non, le sol ici est approprié pour planter le maïs? Je m'excuse, merci beaucoup.
Bien, merci honorable Odiane depuis Issiro. Axa de Kikwit, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Oui, bonjour.
Oui, je voulais un peu contribuer ici à Kikwit, l'université de Kikwit en partenariat avec l'INERA Kiyaka, a mis à jour une nouvelle variété de maïs, l'équipe IM3 ou encore appelée Moudichi variété. Cependant, le maïs est de couleur blanche, ce qui n'est pas du goût de la population. La population désire en fait voir une farine colorée en jaune.
Ok.
Oui, je ne sais pas quelle pouvait être la réaction de monsieur l'invité à ce propos.
Donc l'équipe IM3 n'est pas beaucoup consommée à Kikwit.
Oui, cependant ça contient trop de protéines, mais ce n'est pas trop préféré ici à cause de sa couleur.
De sa couleur blanche. On préfère,
ouais,
plutôt la couleur jaune. Merci.
Tout à fait. On désire voir les foufous colorés.
Oui, oui, les foufous colorés.
Ouais.
D'accord, merci Axa de Kikwit. Sosten, vous êtes à Kindu. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, j'ai dit salut à l'invité. Je voulais juste demander à l'invité si vous récoltez le maïs le même jour et vous le consommez le même jour, vous verrez que le maïs a un goût qui est un peu bon. Si vous le laissez dormir, vous passez nuit et vous le faites passer nuit, vous verrez que le goût a changé. Mais c'est juste logique de demander qu'est-ce qui est à la base de ce changement de goût-là.
Bien, merci. Jean-Pierre Kabongo.
Oui, je commence par la toute dernière question, et c'est plus rapide. Et j'aimerais savoir dans quel état il a récolté ce maïs. Il est sec ou bien il est frais? Il n'a pas précisé.
Oui, il n'a pas précisé. Mais vous pouvez lui dire pour les deux
bon,
cas.
Bon, pour les deux cas.
Oui.
Pour les deux cas, le maïs fraîchement récolté, s'il est frais, c'est tout à fait normal. Il contient encore beaucoup d'humidité. Il contient beaucoup d'humidité. Il est tendre. Quand vous allez le griller ou bien le cuire au feu, c'est tout à fait logique qu'il soit un peu plus tendre et qu'on sait encore tous ces arômes. Mmh. Mais quand vous l'avez laissé dormir, l'eau s'échappe. il y a au moins une humidité qui va diminuer.
Alors
le maïs tend déjà à la fanaison ou bien à la dessiccation. Mmh. Et il perd déjà certains arômes. C'est tout à fait normal.
Alors dans quelles conditions les conserver pour qu'il garde encore sa fraîcheur?
Ça dépend maintenant de la manière dont il préfère le maïs là. S'il veut le maïs cuit, récolté le même jour, ils vont le faire. Mais s'il n'y a pas de possibilité, ils vont se contenter du maïs qui a passé puisqu'il n'y a pas d'autres possibilités. À moins qu'ils le mettent au frais pour qu'il garde son humidité. Je ne sais pas si ça sera possible.
Mmh. Voilà. Honorable Audiane, depuis Siro, dit, et vous avez parlé des nouvelles techniques par rapport à la préparation du sol. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre ça en ligne pour que les autres bénéficient de ces techniques? Parce que de ce côté-là, parfois, il n'y a pas
effectivement,
de spécialistes. Hein.
Effectivement, nous avons mis des gens en ligne.
Dans quel site hein? Où est-ce qu'il peut trouver ces informations-là?
Ok, ces informations-là sont disponibles. Il y a des articles, des périodiques que les ingénieurs, les chercheurs de l'INERA ont déjà mis en ligne. C'est question d'aller sur Google, vous tapez et vous aurez
technique
de préparation. Tout est déjà fait.
D'accord.
Vous lirez les articles les plus récemment publiés.
Alors, où trouvez les semences? Ils demandent aussi par rapport aux semences.
Par rapport aux semences, il faut s'adresser à l'INERA. Je pense que l'INERA s'est doté de plusieurs centres et stations. Pratiquement dans toutes les provinces, vous trouverez soit un centre ou bien une station. Il faut s'adresser là-bas.
Mmh. Et Accent dit à INERA qui Aka produit vous avez parlé de la variété Moudichi,
oui.
Hein, appelée autrement KPM, hein,
oui.
KPM 3, mais là-bas la population n'en veut pas parce que le maïs et la farine à la couleur blanche, on préfère plutôt
le maïs coloré.
Coloré.
Oui, oui, c'est la même difficulté que nous avons dans les Bas-Congo. Ils aiment le maïs, ils cultivent le maïs blanc, ils le consomment frais. Le maïs jaune, c'est pour le mélange au foufou. Mais qui s'inquiète pas, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de développer aussi la variété des QPM jaunes. Et ça sera bientôt en diffusion.
D'accord. Ouais. Il y a les maladies. Est-ce qu'on peut vous dire que toutes ces variétés que vous avez citées sont résistantes aux maladies?
Non, toutes les variétés ne sont pas résistantes aux maladies. Il y a des variétés qui sont appropriées d'un coin à l'autre. Vous ne prendrez pas des variétés qui tolèrent par exemple le froid et vous les mettez dans la cuvette ou bien dans les bas-fonds ou bien dans les...
Alors, quelles sont les variétés qui sont bonnes pour la cuvette et qui sont bonnes ici et pas là-bas?
L'INERA fait son travail, c'est pourquoi nous faisons souvent des essais en multilocaux. Nous amenons une gamme de variétés dans différents endroits et nous les mettons là. Et nous allons voir les variétés qui vont mieux s'adapter dans ce coin-là. Et ce sont les variétés que nous allons recommander dans ce coin-là.
Ils ont besoin de passer à l'INERA.
Les agriculteurs ont besoin de passer à l'INERA.
Et de ne pas acheter sur le marché, aller clairement à l'INERA.
Oui, il faut aller à l'INERA. C'est là qu'ils trouveront la bonne semence
Et des conseils aussi sur l'utilisation.
Et des conseils, oui. Quand nous recevons des appels des gens qui viennent acheter la semence chez nous, nous les accompagnons toujours avec des conseils. Ce qu'ils doivent faire, et la plupart, ils sont toujours contents, ils nous rappellent pour dire que non, vos conseils ont marché avec les variétés que vous nous avez données.
Mmh.
Oui.
Et là, maintenant, parlons de la récolte. Elle intervient après combien de temps? Après avoir bien fait s'aimer, tout ça, on a des bonnes variétés, et la récolte interviendra après combien de temps?
Nous avons trois types de maïs en ce qui concerne le cycle. Nous avons les maïs précoces, à partir déjà de 90 à 100 jours, vous les récoltez. Il y a des maïs intermédiaires mi-tardifs qui vont jusqu'à 120 jours et les maïs tardifs qui vont jusqu'à 130-140 jours.
D'accord. Et revenons sur les maladies. Quelles sont les maladies qui attaquent souvent le maïs et comment les prévenir?
Bon, ça dépend des coins. Par exemple, quand vous allez vers le Ngandajika dans le Mbujimayi, tout ça, on a plus la maladie que nous appelons les mildiou. Les mildiou se forment des champignons qui attaquent le maïs quand il a été planté tardivement. Nous avons la striure qui décolore les feuilles. Nous avons la mosaïque. Dernièrement, nous avons été à Libengue, au nord, vers Centrafrique, pour identifier un ravageur. Et nous étions surpris de voir qu'il n'y avait pas que les ravageurs qui perforaient les tiges. Il y avait aussi la maladie des striures qui s'était installée. Alors, comment la reconnaître? Les plantes se développent normalement, mais les feuilles sont striées. Les feuilles sont décolorées. Il y a des striures décolorées là. Il y a des sous forme de chlorose dans les feuilles. Les feuilles jaunissent. Oui.
Alors la solution, il faut avoir obtenir les semences, disons résistantes aux maladies.
Oui, pour des variétés.
Les variétés, pardon.
Pour les maladies, pour les maladies virales, vaut mieux obtenir des semences certifiées, soit directement à l'INERA, soit aux partenaires qui travaillent avec l'INERA, qui ont reçu les certificats à travers le Service national des semences, qui travaillent en collaboration avec l'INERA.
Parce que toutes les semences qui sont sur le marché, là, ne sont pas bonnes. Hein.
Ne sont pas bonnes. Rien ne prouve que ce sont des vraies variétés, puisqu'elles ne sont pas certifiées.
Voilà,
oui, on les appelle les tout venants.
Les
tout
venants.
Oui.
Bien, alors, comment, après la récolte, comment conserver, bien conserver le maïs et parlez-nous aussi de la transformation.
Oui, commençons d'abord par la conservation. Ce qui a été bien conservé sera aussi bien transformé. Bon, la conservation, c'est que, avant tout, avant d'enlever le maïs de votre champ, vous devez avoir un endroit, un entrepôt, où vous avez désinfecté. Qui dit désinfecter, cela veut dire vous avez effacé toute trace des champignons, des spores des champignons, des insectes. Et en ce moment-là, quand vous amenez votre maïs, vous les conditionnez dans des silos si vous en avez, soit vous les mettez dans des crypts en bois ou bien des crypts métalliques.
Est-ce qu'on a des silos ici chez nous industriels?
Des silos industriels, j'en ai vu quelques endroits, mais il n'y en a pas suffisamment. Mais les gens utilisent plus des crypts, donc ce sont des caisses en bois avec des treillis métalliques où on met tout simplement les maïs et le maïs doit être ventilé en permanence.
Et par rapport à la transformation?
Par rapport à la transformation, le maïs qui a été bien conservé, il faut d'abord bien le sécher. Il faut qu'il soit conservé à autour de 12% à 14% maximum d'humidité. En ce moment-là, le maïs sera très bien conservé. Après égrenage, vous les transformez comme vous voulez. Vous voulez les transformer en aliment pour bétail. Vous les concassez, il y a des formulations. Vous voulez transformer en aliment pour enfants, aliment pour adultes, aliment humain, consommation humaine, vous pouvez le faire. Si vous voulez les transformer pour des produits industriels, si vous avez des moyens, puisque actuellement nous sommes en train d'étudier comment retirer l'huile. Il y a des techniques.
Du maïs.
L'huile du maïs. Nous envoyons des sirops de maïs. Ici, chez nous, on n'en produit pas encore. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons installer tous ces dispositifs-là, bien sûr, avec les partenaires.
Et l'industrie brassicole utilise aussi souvent
l'industrie brassicole utilise beaucoup même des maïs. Et c'est une forme aussi de transformation des maïs. Les gens en consomment chaque jour les maïs.
Tous les jours, oui, dans leur bière.
Dans leur bière, sans savoir.
Bien, merci Jean-Pierre Kabumbo, ingénieur agronome et expert en culture de maïs. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie.
Et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.